Alors, sur cette question des représentations des personnes racisées dans la communauté LGBT, est-ce que, chers amis de Fierté Land, vous avez des réactions à partager avec nous?
Bah, déjà une réaction à ça, donc un grand bravo au travail qui a été fait par la Maison Arc-en-Ciel de Mons, par Nora. Vraiment, c'est quelque chose d'hyper nécessaire. Et nous, on le voit dans notre petit département rural, pardon. C'est un travail qu'on va devoir mener, et encore plus de nos jours. Puisque bon, déjà on avait une communauté LGBT invisibilisée, alors là la communauté cuir racisée, autant dire que pour le coup dans les Landes, si les LGBT n'existent pas, les cuirs racisés de ce département, je pense que là pour le coup ils ont disparu. Donc effectivement là, non, travailler de manière intelligente sur l'intersectionnalité, c'est quand même quelque chose qui nous tient au cœur. Et au niveau de l'association, on compte travailler sur le long terme sur la représentativité, parce que de toute façon, dans les Landes, si on fait pas ce travail-là, je sais que Tim Sama travaille un petit peu, beaucoup sur ce point-là, mais je pense que si on fait pas ce travail, nous aussi, il n'y a aucun intérêt de militer, en fait, clairement.
Il y a un moment privilégié dans l'année pour la communauté LGBTQIA+. Je veux parler bien sûr du mois des fiertés qui approche à grands pas. Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a envie de préciser un peu l'origine peut-être de cette histoire du mois des fiertés?
Traditionnellement, dans le monde entier, les marches des fiertés ont quasiment toutes lieu au mois de juin, tout simplement en commémoration des émeutes de Stonewall à New York. Les émeutes de Stonewall, donc du coup, c'est des émeutes qui sont nées d'une première manifestation organisée par des militants cuir, trans, putes et tout autre composante de la communauté cuir américaine qui était complètement harcelé,
Stigmatisé,
je dirais même,
harcelé, ouais.
harcelé, stigmatisé par la police à l'époque, hein, qui n'arrêtait pas d'organiser des descentes, de leur taper dessus, littéralement.
Parce que la loi aussi était OK pour ça.
Ah, la loi était OK pour ça. La loi était OK pour ça. Et puis au bout d'un moment, les militants de cuir de l'époque se sont dit que ça avait assez duré. Ils ont commencé à descendre dans la rue pendant plusieurs jours. Et c'est comme ça qu'est né l'activisme LGBT dans le monde, hein, puisque c'était les premières mobilisations. Et donc on commémore aussi ça chaque mois de juin, y compris maintenant chez nous dans les Landes. Donc ça sera un peu plus tard pour la Marche des Fiertés, ça sera le 2 juillet, mais nous avons une programmation en cours de finalisation sur tout le mois de juin pour justement mettre en avant et visibiliser nos luttes. Il y a un événement dont je peux parler, c'est une exposition qu'on a déjà annoncée, qui a lieu sur Saint-Paul-lès-Dax du 1er au 19 juin. C'est une exposition sur la déportation pour motif d'homosexualité. Alors ça nous paraissait assez important d'avoir cette exposition dans les Landes, parce qu'on a toujours tendance à oublier que les homosexuels, que les lesbiennes, que les personnes trans ont été également déportées pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi. Voilà, et ça nous paraissait important de le rappeler à une époque où l'extrême droite fait des chiffres jamais vus.
Est-ce qu'il y a d'autres événements par rapport au mois des fiertés que tu veux évoquer ou on attend la conférence de presse officielle?
Alors, il y aura une conférence de presse officielle, on peut déjà vous donner quelques idées. Donc, il y aura éventuellement un pique-nique et des projections qui seront organisées dans des cinémas Montois, Dacquoy et sur Saint-Pierre-du-Mont.
Ok, très bien. Et donc, on approfondira ça avec la conférence de presse, j'ai bien compris.
Voilà, le 2 juin, du coup.
C'est noté. Donc, ces émeutes de Stonewall, c'était 1969, 1970, donc pour la première marche des fiertés. Et 51 ans plus tard, donc, on a eu la première landaise.
C'est ça.
La suivante, ce sera le 2 juillet 2022. Mais j'aimerais bien quand même qu'on revienne sur cette première marche des fiertés landaise, parce que c'était finalement historique. Est-ce que vous pouvez partager éventuellement quelques souvenirs de cette grande première?
Alors là, autour de cette table, je suis le seul qui était présent,
Exactement.
du coup.
Ah bah
Mais
super.
voilà, ça a été un événement, bon, nous, qu'on a vécu comme quelque chose d'énorme.
Enfin, moi j'y étais aussi,
Oui,
hein.
c'est vrai.
Je vais partager.
mais tu peux. Non, effectivement, nous, ça a été une émotion assez énorme, puisque déjà, on était parti très modestement en disant, bon, si on a 150 personnes, on sera content. Enfin, 100, ça sera parfait. On a eu quasiment 500 personnes sur la marche. On a eu énormément de jeunes. Alors ça, c'était aussi assez inattendu. On s'y attendait pas. Et on s'est rendu compte que cet événement, une marche des fiertés dans les Landes, c'était attendu par tous ces jeunes. Là, je pense que vous pourrez le constater cette année, on aura un nombre de bénévoles jeunes normalement
Oui,
assez conséquent.
conséquent.
Voilà. Non, après sur cette marche-là, on a été aussi agréablement surpris par l'accueil qui nous a été réservé par les Dacquois, les Saint-Paulois. Vraiment, on n'a pas eu de soucis particuliers. Ça a aussi mis en lumière des choses qu'il faut quand même préciser, mais qu'il faut vraiment qu'on arrive à travailler un peu plus avec certains élus et que certains élus s'ouvrent un peu plus à cette question-là. Voilà. On a vu.
Petit à petit.
Voilà, petit à petit, on travaille là-dessus, mais c'est vrai que ça a pu être compliqué sur certaines parties du parcours. Voilà. Et effectivement, je pense que c'est important maintenant, à l'heure actuelle, que les élus ne voient pas les marches des fiertés uniquement comme un grand carnaval, mais arrivent à prendre conscience de toutes les revendications qu'il y a derrière et de tout ce que subit la communauté LGBT, QIA+, en France et surtout dans nos départements ruraux, dans les Landes.
Oui, c'est politique.
Totalement. Avant d'être un carnaval.
Oui, puis on l'entendait tout à l'heure avec les
Ouais.
jeunes aussi, c'est important. Enfin, il y a cette idée de communauté, de se reconnaître et d'être ensemble aussi pour avancer. En parallèle, pour revenir à cette question des représentations, il y a aussi eu dans les Landes en ce mois de mai le premier festival de films LGBTQ+ porté par l'association Nos Couleurs, qui est une autre asso LGBT plus récente sur le département des Landes. Donc, les habitantes et habitants du département se saisissent également de ces problématiques. Donc, c'est réjouissant. L'antenne montoise, Vanina, est-ce que tu peux nous expliquer un peu s'il y a des spécificités, comment ça marche, qui travaille avec vous?
Eh bien, déjà, dans un premier temps, l'antenne est assez jeune. On propose essentiellement des permanences, enfin, a proposé jusqu'à présent essentiellement des permanences qui sont très régulières. Donc, c'est le deuxième mercredi de chaque mois, après-midi, de 16h à 19h, au
cercle
Cercle des
des citoyens.
citoyens, c'est ça, Cercle des citoyens. Et sinon, on propose également des moments de convivialité, des sorties, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, le premier week-end de juin, on proposera des sorties canoës, voilà, histoire de pouvoir proposer à tout le monde des lieux de rencontre, de partage, pouvoir être soi, en fait, des bons moments dans les Landes.
Des moments où on a un peu l'esprit reposé parce qu'on sait
Exactement.
que on peut être soi-même et parler
C'est ça,
sans être repris.
c'est le plus important finalement, pouvoir être soi, sans jugement, aucun.
Je vais faire un petit parallèle avec les questions de genre qu'on évoquait avec Maëlle et Isa tout à l'heure. Vanina, toi tu as les origines polynésiennes.
Oui.
Et hier soir, il y avait donc la réunion de préparation pour la Pride et le mois des fiertés. Et tu évoquais une spécificité qui est propre à la culture polynésienne, le maou. Est-ce que c'est bien comme ça qu'on dit?
Exactement, le mahou,
C'est pas
avec
vraiment ça.
un H aspiré, enfin, c'est un terme qui a évolué sur le réré d'ailleurs. Ce sont des personnes qui sont efféminées. Le troisième sexe dans notre culture existe depuis toujours. Il faut savoir qu'ils sont considérés même comme des personnes très très importantes puisqu'elles sont capables, en règle générale, de pouvoir assumer les tâches, doubles tâches finalement, celles des hommes et celles de la femme, s'occuper à la fois du foyer à l'intérieur et à l'extérieur. Donc ça représente beaucoup beaucoup d'importance pour notre population, en tous les cas. Et c'est une tradition également qui est faite dans des familles où il n'y a pas de garçons. Voilà. C'est le dernier, ou le troisième en général, qui sera assigné à ces tâches-là. Tout simplement.
Donc, ça peut ouvrir des réflexions sur les questions
Exactement.
de genre, quoi.
Mais exactement, sur finalement, est-ce que c'est un peu sociétal tout ça? Parce que ça a beaucoup beaucoup changé à partir de la colonisation. Effectivement, à partir du moment où on a commencé à ramener les religions et la bienséance, tout à coup ça a posé problème. l'identité de genre, en tous les cas, pose des problèmes à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est également pour ça que j'en parlais hier lors de la réunion, parce que c'est une tradition qui a tendance à se perdre également dans ma communauté. La communauté polynésienne en l'occurrence, et on est de plus en plus témoins sur nos îles de comportements très agressifs et violents envers les personnes trans. Et je trouve que il faut en parler. Ben, c'est important d'en parler et de pouvoir surtout mettre peut-être l'accent sur l'influence de certaines cultures sur la nôtre.
De qui tu parles?
Je ne sais pas. Je ne citerai pas de nom.
On va parler justement de transidentité dans la dernière demi-heure de ce 12e numéro de Margot Guette. Pour l'instant, on écoute Louisa Donna, une chanson qui s'appelle « Elle est taureau ».
Faites vos valises, restez sur MDM.
Scientifique. J'aime.